Germaine de Staël, Delphine, partie 4, lettres 18 à 23 comprises. Lettre 18. Réponse de Delphine à Monsieur de Lébancé. Paris, ce 3 septembre. Ah, quel mal vous m'avez fait! C'est votre amitié qui vous a inspiré. Mais fallait-il renouveler les regrets d'un malheur irréparable? Oui, il l'est, et je serais indigne de votre estime si j'acceptais un moment l'espoir que vous avez conçu pour moi. Vous n'aimez point Mathilde, vous avez même de justes raisons de vous en plaindre. Il était donc naturel que vous vous fissiez illusion sur les devoirs de Léonce et sur les miens envers elle. Cette erreur ne m'était pas possible. Je ne l'ai pas admise un seul instant. Mais il y a des paroles qui bouleversent l'âme, alors même qu'il n'en doit rien résulter. Lorsque j'ai lu dans votre lettre, comme à travers un nuage, ces mots, « Léonce n'est point irrévocablement lié à Mathilde. Il peut encore devenir votre époux. » J'ai frissonné. J'ai éprouvé je ne sais quelle émotion indéfinissable, hors de l'existence, au-delà de ses bornes. Je ne puis me faire maintenant aucune idée de cette impression. Si l'âme, dans une extase, avait entrevu la destinée des bienheureux, et qu'elle retomba l'instant d'après sur les peines de la vie, comment pourrait-elle exprimer ce qu'elle aurait senti? Cette sorte de confusion est dans ma tête. J'ai éprouvé au cœur, en lisant vos premières lignes, une sensation que je ne retrouverai jamais. Elle est passée, mais ce souvenir rend l'existence réelle plus amère. Je me hâte de vous répondre avant d'avoir vu Léonce. Je désire qu'il ignore jamais la proposition que vous m'avez faite. Son consentement ou son refus me serait également pénible. Ma situation est sans espoir, je le sais. Tout ce que vous avez dit est vrai. Des peines que vous ignorez encore me menacent. Si Mathilde vient à découvrir les sentiments qu'un hasard lui a dérobés jusqu'à présent, j'immolerai mon bonheur à Mathilde, après avoir sacrifié ma réputation à Léonce. Tout me prouve, hélas, qu'il n'est point de félicité possible pour l'amour hors du mariage, point de repos pour la faiblesse encore vertueuse qui veut composer avec l'amour. Mais cette douloureuse conviction ne peut me faire adopter le conseil que vous me donnez. Il serait criminel pour moi de le suivre. Daignez m'entendre, je suis loin de vous offenser. Ne pensez pas que mon esprit repousse ce que la plus sage philosophie vous inspire. Je pense, il est vrai, qu'à moins de circonstances semblables à celles où Madame de Lébancé s'est trouvée, la délicatesse d'une femme doit lui inspirer beaucoup de répugnance pour le divorce. Mais je ne crois point aux vœux irrévocables. Ils ne sont, ce me semble, qu'un égarement de notre propre raison, sanctionné par l'ignorance ou le despotisme des législateurs. Mais si j'étais capable d'exciter Léonce au divorce avec Mathilde, si je considérais même cette idée comme un avenir, comme une chance possible, je désavouerais le principe de morale qui m'a toujours servi de guide. Je sacrifierais le bonheur légitime d'une autre à moi. Je ferais enfin ce qui me semblerait condamnable, et celui qui brave sa conscience est toujours coupable. Nul repentir n'est imprévu. Le remords s'annonce de loin. Et qui sait interroger son cœur, connaît avant sa faute tout ce qu'il éprouvera quand elle sera commise. Le divorce jetterait Mathilde dans un profond désespoir. Elle le regarderait comme un crime, ne se considérerait jamais comme libre et s'enfermerait dans un cloître pour le reste de ses jours. Je ne sais pas avec certitude quel degré de peine elle éprouverait si elle connaissait l'attachement de Léonce pour moi. Mais ce dont je ne puis douter, c'est qu'elle serait à jamais infortunée si Léonce, profitant de la loi du divorce, se permettait une action qui serait à ses yeux un sacrilège impie. Quand ma coupable et malheureuse amie, Madame de Vernon, trompa Léonce pour l'unir à sa fille, Mathilde l'ignorait. Elle n'y aurait point consenti. Elle s'est toujours conduite avec bonne foi. C'est une personne peu aimable, mais vertueuse. Elle n'est tourmentée ni par son imagination, ni par sa sensibilité. Elle n'observe, ni avec un esprit, ni avec un cœur inquiet, la conduite de son époux. Mais elle éprouverait une douleur mortelle si on venait l'attaquer dans les idées où elle s'est retranchée, si l'on offensait à la fois sa fierté et sa religion. Pour obtenir le bonheur d'être la femme de Léonce, je ne sais quel est le supplice qui ne m'apparaîtrait pas doux. Je vous l'avoue, dans la sincérité de mon cœur, j'accepterai avec délice 3 mois de ce bonheur et la mort. Mais je le demande à vous-même, âme noble et généreuse. Auriez-vous épousé votre Élise aux dépens du bonheur d'un autre? Voudriez-vous de la félicité suprême à ce prix? Où se réfugier pour éviter le regret de la peine qu'on a causée? Connaissez-vous un sentiment qui poursuive le cœur avec une amertume si douloureuse? L'amour qui fait tout oublier, devoir, crainte, serment, l'amour même donne à la pitié une nouvelle force. Ce sont des sentiments sortis de la même source et qui ne peuvent jamais triompher l'un de l'autre. L'ambitieux perd aisément de vue les chagrins qu'il a fait éprouver pour arriver à son but. Mais le bonheur de l'amour dispose tellement le cœur à la sympathie qu'il est impossible de braver pour l'obtenir le spectacle ou le souvenir de la douleur. On se relève de beaucoup de torts. La vertu est dans la nature de l'homme. Elle reparaît dans son âme, après de longs égarements, comme les forces renaissent dans la convalescence des maladies. Mais quand on a combattu la pitié, on a tué son bon génie, et tous les instincts du cœur ne parlent plus. Oui, je repousserai loin de ma pensée le bonheur qui me fut promis une fois sous les auspices de l'innocence et de la vertu, mais que rien désormais ne saurait me rendre. Je devrais faire plus, je devrais cesser de voir Léonce. Mais je ne puis me le cacher, mon caractère n'a pas la force nécessaire pour les sacrifices. Je remplis les devoirs que les qualités naturelles rendent faciles. Je suis peu capable de ceux qui exigent un grand effort. Peut-être, dans votre système bienfaisant qui fait du bonheur la source et le but de toutes les vertus, peut-être n'avez-vous pas assez réfléchi à ces combinaisons de la destinée qui commandent de se vaincre soi-même. Je suis dans l'une de ces situations déchirantes, et je sens ce qu'il me manque pour suivre rigoureusement mon devoir. Il n'est pas vrai, comme votre cœur se plaît à le supposer, qu'il ne faille point d'effort pour être vertueux. C'est le bonheur, j'en conviens avec vous, qu'on doit considérer comme le but de la Providence. Mais la morale, qui est l'ordre donné à l'homme de remplir les intentions de Dieu sur la terre, la morale exige souvent que le bonheur particulier soit immolé au bonheur général. Jugez par moi de ce qu'il pourrait en coûter pour accomplir les devoirs dans toute leur étendue. Je crois que j'ai les vertus qu'une bonne nature peut inspirer, mais je n'atteins pas à celles qu'on ne peut exercer qu'en triomphant de son propre cœur. Je suis, je ne me le cache point, dans un rang inférieur parmi les âmes honnêtes. Les vertus qui se composent du sacrifice méritent peut-être plus d'estime que les meilleurs mouvements. Dans cette circonstance au moins, je n'hésiterai pas sur mon devoir. L'opinion me persécutera, des malheurs de tout genre tomberont sur moi. Je ne pourrai pas m'y dérober à présent, même en renonçant à Léonce. Mais je suis plus loin encore de vouloir y échapper, en portant atteinte à la destinée de Mathilde. Que mes fautes perdent mon bonheur, mais qu'elles ne causent de peine à personne, et que l'infortunée Delphine, seule punie de son amour, ne fasse jamais verser d'autres larmes que les siennes. En rejetant le conseil que votre amitié me donne, je ne sens pas moins vivement tout ce que je vous dois, monsieur, pour vous être occupé de moi avec tant de sollicitude. Et c'est un souvenir qu'il m'est doux de joindre à tous ceux qui m'attachent pour la vie, à vous et à votre Élise. Lettre 19. Delphine à Madame de Lébancey, Paris, ce 4 septembre. Monsieur de Lébancey, ma chère Élise, en apprenant à Léon ce qu'il m'avait écrit, m'a causé de nouveaux chagrins, quoique assurément son unique désir fût de me les épargner. Léon, hier, est venu chez moi. Il était depuis 3 jours à Paris sans avoir cherché à me voir. Il fallait qu'il fût bien mécontent de lui-même, puisqu'il n'avait pas besoin de m'ouvrir son cœur. J'étais seule. Je vis sur sa physionomie, comme il entrait dans ma chambre, une vive expression d'inquiétude. Et, sans me dire un mot ni de son absence ni de son retour, ses premières paroles furent pour me demander si j'avais reçu une lettre de M. de Lébancey, si j'y avais répondu. Je fus très troublée de cette question. Il insista. Ma réponse n'était point encore partie. Léon s'aperçut la lettre de votre mari et la mienne sur ma table et me demanda de les lui montrer. Je m'y refusai d'abord. Il s'en plaignit avec une sorte de mécontentement sévère et triste qu'il m'est impossible de supporter. Je me levai désespéré de céder à ce qui me semblait la nécessité, la volonté de Léonce, et je lui remis la lettre de M. de Lébancey et la mienne. J'aurais donné tout au monde pour les lui cacher, mais son regard ne me permit pas d'hésiter à lui obéir. En prenant ces lettres, il soupira et se tut. J'étais aussi moi-même dans l'anxiété la plus douloureuse. Je ne sais ce que je désirais. Je ne sais ce que je craignais d'entendre, mais je souffrais cruellement. Dès les premières lignes de la lettre de M. de Lébancey, Léon se changea de visage. Il pâlit et rougit alternativement, sans lever les yeux sur moi, ni prononcer une seule parole, quoique tout trahît en lui l'émotion la plus profonde. Après avoir lu la lettre de M. de Lébancey, il prit la mienne. Ses mains tremblaient en la tenant. Je m'efforçais pendant ce temps de paraître tranquille et de dissimuler ma violente agitation. Il me semblait qu'il y avait une sorte de honte dans cette situation à laisser voir mon trouble. Quand Léon fut à l'endroit de ma lettre où je repoussais avec vivacité l'idée du divorce, les larmes le suffoquèrent. Il laissa tomber sa tête sur sa main, avec des sanglots qui me déchirèrent le cœur. Je l'avais vu souvent attendri, mais c'était la première fois que, cessant de se retenir, il se livrait à ses pleurs, comme si toutes les puissances de son âme avaient à la fois cédé dans le même moment. Je fus bouleversée en le voyant dans cet état, quoique je n'en connusse pas bien la cause, et que je craignisse même de la pénétrer. Mais qui peut peindre l'effet que produit un caractère fort lorsqu'il est abattu par la sensibilité? Jamais les larmes des femmes, jamais les émotions de la faiblesse ne pourraient ébranler le cœur à cet excès, ne sauraient inspirer un intérêt si tendre et néanmoins si douloureux. Léonce, mon cher Léonce, lui répétai-je plusieurs fois, quel est le sentiment qui vous oppresse? Parlez sans crainte à votre ami, vous pouvez tout lui avouer. Est-ce la calomnie qu'on a répandue sur moi qui vous afflige si douloureusement? Est-ce cette proposition inattendue mais vivement repoussée? Je m'arrêtai, il ne répondit rien. Ses larmes redoublaient. Il essayait, mais en vain, de se contraindre, et, rejetant sa tête en arrière, avec l'impatience de ne pouvoir triompher de son émotion, il couvrit son visage de son mouchoir, et des cris de douleur lui échappèrent. Il me fut impossible de supporter plus longtemps ce silence, ce désespoir extraordinaire, et je me jetai aux genoux de Léonce pour le conjurer de me parler et de m'entendre. Ce mouvement fit sur lui l'impression la plus vive. Il me regarda quelques instants avec étonnement, avec transport, comme si quelque chimère heureuse se fût réalisée à ses yeux. Il me saisit dans ses bras, me replaça sur le canapé, et se prosternant à mes pieds, il me dit « Oui, vous êtes un ange, mets-moi. » Son visage redevint sombre et il se releva. Le jour baissait. Un mouvement que je fis lui persuada que j'allais sonner pour demander de la lumière. Il me saisit la main et me dit « Restons dans cette obscurité. Je ne veux pas que vous lisiez rien sur mon visage. Je ne veux pas apercevoir sur le vôtre ce qui vous occupe. Tout doit être mystère. Rien ne peut plus se confier. » Grand Dieu, m'écriai-je, quel affreux changement! J'allais continuer, j'allais le forcer à s'expliquer lorsque ma sœur entra, et dans l'instant même, Léon se disparut. Jugez quelle cruelle réflexion déchirait mon cœur. Est-ce l'opinion de M. de Lébancey sur la possibilité du divorce qui a jeté Léonce dans cet égarement? Ou n'est-ce pas plutôt qu'il me croit perdu dans l'opinion et que ce malheur est au-dessus de ses forces? Je saurai la vérité. Le doute qui me tourmente ne peut subsister plus longtemps. Mais je vous en conjure, ma chère Élise, priez votre mari de ne rappeler en aucune manière à Léonce l'idée qu'il avait conçue. Vous voyez bien que cette idée ne peut produire que des peines. Lettre 20. Delphine à Léonce. Je veux, Léonce, que vous me parliez avec sincérité, avec courage même, dussiez-vous me faire beaucoup souffrir. Vous savez quels sont les chagrins cruels qui, depuis votre querelle avec M. de Valorbe, ont troublé ma vie. Je vous l'avouerai, j'ai senti en vous revoyant que tout ce qui m'affligeait n'était rien en comparaison des peines que vous seul pouvez me faire éprouver. Je vous ai promis, en présence de ma sœur, de ne jamais me séparer de vous tant que le bonheur de Mathilde ne l'exigeait pas de moi. Peut-être que bientôt, à son retour d'Andouilly, elle sera informée à la fois et des calomnies et de la vérité. Mais quand même un hasard inouï prolongerait sa sécurité, c'est vous que j'interroge, pour savoir si je ne dois pas m'éloigner. Ne croyez point que je veuille partir pour me dérober à la méchanceté dont je suis la victime. Je puis peut-être m'en relever aux yeux des autres. Je puis, du moins, trouver dans ma conscience qui est pure et dans ma fierté qui est orgueilleuse, de quoi me rendre indépendante des accusations que je méprise. Mais ce qu'il m'est impossible de supporter, c'est la moindre diminution dans le bonheur que mon attachement vous faisait goûter. Examinez avec scrupule, je vous en conjure, l'impression qu'a produite sur vous l'horrible mal qu'on a dit de moi, et la dégradation sensible qui doit en résulter dans le rang que la société m'accordait. Demandez-vous si cette espèce de prestige dont la faveur du monde entoure les femmes ne séduisait pas votre imagination, et si elle ne se refroidira pas lorsque ceux que vous verrez, loin de partager votre enthousiasme pour moi, le combattront de toutes les manières. Il entre dans la passion de l'amour tant de sentiments inconnus à nous-mêmes que la perte d'un seul pourrait flétrir tous les autres. Ah, s'il me fallait partir, quand vous me regretteriez moins. Pardonnez, Léonce, je ne veux pas votre malheur. S'il faut nous séparer, je souhaite vivement que le temps et la raison adoucissent un jour votre peine. Mais qui pourrait me condamner à désirer que vous supportiez plus facilement mon absence parce que l'illusion qui me rendait aimable à vos yeux aurait disparu? Ô Léonce, préservez-moi d'une telle douleur. Laissez-moi vous quitter quand je vous suis chère encore, quand l'injustice des hommes n'a pas eu le temps d'agir sur vous et que je puis disparaître en vous laissant un souvenir qui n'est point altéré. Léonce, réfléchissez à ma demande. Ne vous confiez pas même au premier mouvement généreux qui vous la ferait repousser. Songez que votre caractère peut vous dominer malgré vous et que vous ne parviendriez jamais à me dérober vos impressions. L'amour ne serait pas la plus pure, la plus céleste des affections du cœur s'il était donné à la puissance de la volonté d'imiter son charme suprême. On trompe les femmes qui n'ont que de l'amour propre, mais le sentiment est clair sur le sentiment. Et nos âmes, longtemps confondues, ne peuvent plus se rien cacher l'une à l'autre. Consentez à mon départ dans ce moment, doux encore, puisque mes ennemis, en vous rendant malheureux, ne vous ont point détaché de moi. Loin de vous, je ne cesserai point de vous aimer. Il me restera du passé quelques sentiments qui m'aideront à vivre. Mais si j'avais vu votre amour succomber lentement au souffle empoisonné de la calomnie, je n'éprouverais plus rien qui ne fût amer et désespéré. Lettre 21. Léonce à Delphine. Ai-je mérité la lettre que vous venez de m'écrire? Vous m'avez fait rougir de moi. Il faut que je vous ai donné une bien misérable idée de mon caractère pour que vous puissiez imaginer un instant que votre malheur ait affaibli mon attachement pour vous. Ô Delphine, avec quel profond dédain je repousserais une telle injustice si vous n'en étiez pas l'auteur. Qu'ai-je dit? Qu'ai-je montré? Qu'ai-je éprouvé qui justifie ce soupçon indigne de vous? Vous m'avez vu avant-hier dans un état extraordinaire. Une proposition frappante, quoique impossible, avait renouvelé tous mes regrets. Elle remplissait mon cœur d'une foule de pensées douloureuses, contraires, diverses, et néanmoins si confuses qu'il m'eût été pénible de les exprimer. Voilà tout le secret de mon trouble. Sans doute, j'ai été affligée des calomnies que des infâmes ont répandues contre vous. Mais c'est moi que j'accuse comme la première cause de ce malheur. Le chagrin que j'en ai ressenti n'est-il pas de tous les sentiments le plus naturel? Puis-je vous aimer et être indifférent à votre réputation? Puis-je vous aimer et ne pas sentir avec désespoir, avec rage, les fatales circonstances qui me condamnent à l'impuissance de vous venger? Mais Delphine, je te le jure, jamais ton amant ne t'a chéri plus profondément. Il est vrai, je suis susceptible pour toi comme pour moi-même, ou plutôt mille fois plus encore. Crois au témoignage de sentiments qui s'accordent avec le caractère. Ce sont les plus vrais de tous. Dans aucun moment je ne pourrais supporter ton absence. Mais s'il me fallait attribuer ton départ à la fausse idée que tu aurais conçue des dispositions de mon cœur, je te suivrai, pour te détromper, jusqu'au bout du monde. Quoi, mon ami? Tu voudrais t'éloigner de moi au premier chagrin qui a frappé ta vie brillante? Tu ne me croirais donc qu'un compagnon de prospérité? Tu n'aurais rien trouvé dans mon cœur qui valût pour la fortune? Ah, que suis-je donc si ce n'est pas moi que tu recherches dans la douleur? Et si la voix de ton ami ne conjure pas loin de toi les peines de la destinée? Je ne veux point te dissimuler ce que j'éprouve, car je n'ai pas un sentiment qui ne soit une preuve de plus de mon amour. J'aimais le concert de louanges qui te suivait partout. Il retentissait à mon cœur. J'aimais les hommes de t'admirer. Je les haïrais de te méconnaître. Mais quand nous ne parviendrions pas à te justifier, à prosterner à tes pieds la haine et l'envie, ta présence serait encore le seul bien qui pût m'attacher à l'existence. Ma Delphine, j'ai déjà beaucoup souffert. Mon âme est péniblement ébranlée. Prends garde de ne pas m'ôter les seules jouissances qui me restent. Je ne traînerai point la vie au milieu des douleurs. Je me l'étais promis longtemps avant de t'avoir connu. Crois-tu que ces jours de délices que j'ai passés à Bellerive m'aient appris à mieux supporter le malheur? Jamais un cœur de quelque énergie ne pourra supporter de te perdre après avoir été l'objet de ton amour. Tu parles quelquefois d'un éloignement momentané. Mon ami, comprends-tu toi-même ce que c'est qu'une année? Ce que c'est que bien moins encore pour des âmes telles que les nôtres? Ah, je n'ai pas en moi ce pressentiment de vie qui rend si libéral du temps. Si nous interrompons notre destinée actuelle, je ne sais ce qu'il arrivera, mais jamais, jamais nous ne nous réunirons. Delphine, frémis de ce présage, une voix au fond de mon cœur l'a prononcée. Cessez donc de supposer un instant que notre séparation soit possible. Dans quelque lieu de la terre que vous alassiez, je vous y rejoindrai, n'en doutez pas. Le mot de départ n'a plus aucun sens. Si vous quittez Paris, vous me forcez à m'éloigner de Mathilde pour habiter les mêmes lieux que vous. Ce sera l'unique résultat du sacrifice dont vous persistez à me menacer. N'est-ce donc pas assez de ne vous voir presque jamais seul, de n'avoir plus ces doux et longs entretiens qui perfectionnaient mon caractère en me comblant de bonheur? J'ai dompté mon amour. La terreur que m'a fait éprouver le danger où ma passion vous avait précipité, cette terreur réprime encore les mouvements les plus impétueux de mon cœur. C'est assez de ces peines. Je n'en supporterai plus de nouvelles. Et dans quelque lieu que vous soyez, vous m'y trouverez. Je n'ai voulu, Delphine, vous implorer qu'au nom de mon amour. Je veux que vous restiez pour moi. Mais l'intérêt même de votre réputation suffirait seul pour vous en faire la loi. Serait-il digne de vous éloigner dans ce moment? N'est-il pas certain qu'on répondrait que, si vous aviez pu vous justifier, vous ne seriez pas parti? Madame d'Artenat, en qui vous avez de la confiance, me disait hier encore que vous vous deviez de reparaître dans la société et de triompher vous-même de vos ennemis. Ne connaissez-vous pas le monde? Si vous pliez sous le poids de son injustice, il n'attribuera point votre abattement à la douleur, à la sensibilité de votre caractère. Vous êtes trop supérieur pour qu'on revienne à vous par de la pitié. C'est votre courage qu'il faut opposer au mensonge de l'envie. Si la bonté suffisait pour la désarmer, vous aurait-elle jamais attaqué? Mon ami, si tu me rends le calme et la force en m'assurant que rien n'est changé dans tes projets ni dans ton cœur, nous en imposerons aux méchants. Ne saurais-tu pas, avec de l'esprit et de la bonté, réussir aussi bien qu'eux avec de la sottise et de la perfidie? Confions-nous un peu plus en nous-mêmes. Les envieux nous avertissent de nos qualités par leur haine. Eh bien, appuyons-nous sur ces qualités. Toi, Delphine, toi surtout. Il te suffit de paraître pour plaire, de parler pour être aimé. Ose affronter cette société qui ne peut te braver qu'en ton absence. Je te réponds du triomphe, et tu en jouiras pour moi. Mais quand nos communs efforts n'auraient pas le succès que j'en espère, quoi qu'il puisse arriver, n'ayez plus d'injuste défiance. Ne vous exagérez pas les faiblesses de votre ami. Et que son amour vous réponde de son bonheur, tant qu'il pourra vous voir et que vous l'aimerez. Lettre 22. Delphine à Madame de Lébancey, Paris, ce 25 septembre. Combien vous m'avez témoigné d'amitié pendant les jours que vous avez passés près de moi. Je ne vous laisserai rien ignorer, ma chère Élise, de ce qui m'intéresse. J'ai le bonheur de croire que votre cœur en est vivement occupé. Léon s'est parvenu à me rassurer sur son sentiment. Nous avons ressaisi pour la troisième fois des espérances de bonheur qui étaient presque entièrement perdues. Mais hélas, je n'y ai plus la même confiance. Quand Léon a passé quelques jours sans aller dans le monde, il croit qu'il est devenu tout à fait insensible à cette injustice de l'opinion envers moi qui l'a blessé si profondément. Mais il ne sait pas que cette douleur, quand on en est susceptible, revient aussi facilement qu'elle se dissipe, cesse et renaît, mais ne se guérit jamais entièrement. Lorsque Léon s'en est atteint, il cherche à me le dissimuler. Il s'efforce d'être calme, mais je lis malgré lui dans son cœur. Je vois qu'il souffre de cette peine d'autant plus amère qu'il craindrait de m'humilier en me l'avouant. Voilà donc la plus douce de nos jouissances, la parfaite confiance déjà altérée. Nous ne nous cachons rien, mais réciproquement nous sentons que notre peine est moins douloureuse en ne nous en parlant pas. Je crains aussi de lui laisser apercevoir que mon cœur n'est pas en tout parfaitement satisfait de lui. Je ne veux pas me prévaloir de ses torts pour l'affliger. Ah, ce n'est pas moi qui le punirai de ses défauts. Hélas, les événements ne s'en chargeront peut-être que trop. Il désire, et quoi qu'il m'en coûte, j'y souscris, que je recommence à sortir, à revoir mes anciennes relations. Il croit que j'effacerai, si je le veux, la trace des calomnies qu'on a répandues sur moi. Et je ne puis me dissimuler que son bonheur est attaché à mes succès à cet égard. Je le ferai donc, mais quel effort pénible. Lorsque je suis entrée dans le monde, je croyais voir un ami dans tout homme qui se plaisait à causer avec moi. J'éprouve à présent un sentiment bien contraire. Je n'ose m'adresser à personne, parler à personne. Une fierté timide m'empêche de rien essayer pour sortir de ma situation, et cependant elle me cause une douleur très vive. Je pense sans cesse avec amertume à ce qu'on a dit de moi, surtout à ce que Léon a entendu. Les ennemis auraient-ils le courage de vous poursuivre s'ils savaient qu'ils peuvent empoisonner jusqu'à l'affection même qui vous restait pour vous consoler de leur haine? La haine, juste ciel, comment l'ai-je méritée, ma chère Élise? À qui ai-je fait du mal? À qui n'ai-je pas fait tout le bien qui était en ma puissance? Et d'où naissent-elles donc ces fureurs cachées qui n'attendaient que le moment de la disgrâce pour éclater? Est-ce à la jalousie qu'il faut les attribuer? À quelques agréments dont je n'ai connu le prix que pour chercher à plaire et à être aimé, donnent-ils assez de bonheur pour exciter tant d'envie? Et il faudra que je brave ces mauvais sentiments, dont il m'eût été si doux de m'éloigner. 2 ans d'absence auraient produit naturellement ce que je n'obtiendrais qu'au prix de 1000 souffrances. Enfin il le veut, ou plutôt, je sais quel prix il met à me revoir au rang que j'occupais dans l'opinion. Parviendrai-je jamais à dompter la malveillance? Elle me glace à l'instant où je l'aperçois. Je n'ai plus ni les armes de mon esprit ni celles de mon caractère devant les méchants. Ce n'est point par faiblesse. Vous savez si je manque de courage quand il s'agit de défendre mes amis. Mais j'ai peur de ceux qui me haïssent, parce que je ne sais pas leur opposer un sentiment de même nature. Et les larmes me viennent plus facilement que les expressions méprisantes quand je me vois l'objet de cet actif besoin de nuire qui remplit les vies désœuvrées. N'importe, Léon est malheureux, et pour faire cesser sa peine, je saurai retrouver mes forces. La bonté les affaiblissait, la fierté doit les relever. Mais la société, ce plaisir déjà si vide, si insuffisant en lui-même, que sera-t-elle pour moi si je suis obligée d'en faire une lutte, une guerre, un sujet continuel d'observations et de craintes? Depuis 15 jours, ne faut-il pas compter qui vient ou ne vient pas me voir? Ne faut-il pas examiner la nuance des politesses des femmes, le degré de chaleur de leur empressement pour moi. J'ai senti battre mon cœur de crainte pour une visite à recevoir, pour une misérable formule de politesse à remplir. Je ne connais pas une qualité forte de l'âme, une faculté supérieure de l'esprit, qui ne se dégrade par une telle vie. L'idée générale de ménager l'opinion, de parvenir à la recouvrer quand une injustice vous la ravit, ne rappelle rien à l'esprit qui ne soit sage et noble. Mais combien tous les détails dans cette entreprise répugnent à l'élévation des sentiments, combien ils exigent de souplesse, de contrainte, de condescendance. Et comme au milieu de ce pénible travail, un mouvement d'orgueil vous dit souvent que vous avez tort de soumettre ce qui vaut le mieux à ce qui vaut le moins, et d'humilier un être distingué devant la capricieuse faveur de tant d'individus sans nul mérite, de tant d'individus qui, si vous étiez dans la prospérité, se rendraient bientôt justice et se placeraient d'eux-mêmes à 100 pieds au-dessous de vous. Mais à quoi servent toutes ces plaintes auxquelles je m'abandonne en vous écrivant? Ne sais-je pas que je ferai ce que demandera Léonce, et sans même qu'il me le demande, ne sais-je pas que je ferai ce qui peut contribuer à me rendre plus aimable à ses yeux? Félicitez-vous, mon ami, d'avoir pour époux un homme affranchi du joug de l'opinion. Vous êtes peut-être plus faible que lui à cet égard, mais cela vaut mieux que si vous aviez un caractère naturellement indépendant, dont vous ne puissiez tirer aucun secours parce qu'il blesserait ce que vous aimez. Je me rappelle qu'avant d'avoir vu Léonce, la première fois que je lus une lettre de lui, je sentis avec force que les différences de nos caractères nous rendraient, si nous nous aimions, profondément malheureux. Hélas, il n'est que trop vrai que nous le sommes. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que le défaut même dont je me plains a je ne sais quel attrait qui donne à mon sentiment de nouvelles forces. Un caractère ombrageux et susceptible vous occupe sans cesse par la crainte de lui déplaire. Vous attachez chaque jour plus de prix à satisfaire un homme si délicat sur la réputation et l'honneur. Enfin, quand des défauts qui appartiennent à l'exagération même de la fierté ne détachent pas de ce qu'on aime, ils sont un lien de plus. Et l'agitation qu'ils causent donne aux affections passionnées une nouvelle ardeur. Chère Élise, venez me voir. Venez avec votre mari. Sa conversation me rend le courage que la parfaite raison s'est toujours inspirée. Lettre 23. Delphine à Madame de Lébancé. Paris, ce 4 octobre. Samedi dernier, 2 heures après votre départ, ma chère Élise, il est arrivé à ma belle-sœur une lettre de M. de Valorbe, datée de Moulins, où son régiment est en garnison. Il lui annonce qu'il a fait son voyage heureusement. Il rappelle indirectement les droits qu'il doit avoir acquis sur mon dévouement. Mais il ne paraît pas avoir la moindre connaissance de ce qui a été dit à Paris relativement à lui. J'espère qu'il ne le saura point, et que les soins que Léonce a pris pour le justifier auront réussi. C'est une telle autorité que Léonce, quand il s'agit de la bravoure d'un homme, que peut-être elle aura suffi pour défendre l'honneur de M. de Valorbe. J'ai fait, hier, enfin, ma chère Élise, le cercle de visite dont vous m'aviez recommandé de vous mander le résultat. Heureusement que je n'ai pas trouvé toutes les femmes que j'allais voir. Celles qui ne sont que mes connaissances m'ont paru à quelques nuances près les mêmes pour moi. Je ne leur demandais rien. Mais quand j'ai voulu prier une ou deux femmes avec qui j'étais plus liée d'expliquer la vérité, de repousser la calomnie dont j'avais été l'objet, elles se sont crues des personnes en place à qui l'on demande une grâce, et elles m'ont montré toute l'importance, toute la réserve, toute la froideur de la puissance envers la prière. je me suis hâté de leur dire que je renonçais à ce que je leur demandais, et leur visage s'est un peu éclairci quand elles ont été bien certaines que je ne tirerais de leur politesse aucun droit sur leur service. Si je puis rétablir ma réputation dans le monde, ce n'est point, j'en suis sûr, en recourant au zèle ou à l'amitié de quelques personnes en particulier. C'est un hasard heureux dans la vie que d'être secouru par les autres. Il n'y faut point compter. Il faut encore moins le demander. J'aime mieux reparaître courageusement dans la société et me conduire comme si je méprisais tellement les mensonges qu'on a osé répondre que je ne daignasse pas même m'en souvenir. Par degrés, les faibles, me voyant de la force, se rapprocheront de moi. Ils me reviendront dès qu'ils croiront que j'ai pu me passer de leur secours. Il y a dans le cœur de la plupart des hommes quelque chose de peu généreux qui les porte à se mettre en garde contre les démarches les plus communes de la société dès qu'ils aperçoivent qu'on les désire d'eux vivement. Ils craignent qu'on ait un intérêt caché dans ce qui leur semble le plus simple et redoutent de se trouver, par malheur, engagés à faire plus de bien qu'ils ne veulent. Élise, nous ne sommes pas ainsi, nous qui avons souffert. Oui, dans toutes les relations de la vie, dans tous les pays du monde, c'est avec les opprimés qu'il faut vivre. La moitié des sentiments et des idées manquent à ceux qui sont heureux et puissants. Je me suis hâtée de finir mes pénibles courses par Madame d'Artenat, sur laquelle je comptais, et avec raison, à beaucoup d'égards. Madame de R, sa nièce, était seule avec elle. Madame d'Artenat m'a reçue avec le même empressement qu'à l'ordinaire, mais seulement avec une nuance de protection de plus. Qu'il est rare, ma chère Élise, que l'adversité ne fasse pas dans les amis un changement quelconque qui blesse la délicatesse. Plus ou moins d'égards, une familiarité plus marquée ou une aisance moins naturelle. Tout est un sujet de peine ou d'observation pour celui qui est malheureux. Soit qu'en effet il n'y ait rien de plus difficile pour les autres que de rester absolument les mêmes lorsqu'une idée nouvelle s'est introduite dans leur relation avec nous. Soit qu'un cœur souffrant comme une santé faible s'affecte de mille nuances que le bonheur et la force n'apercevraient pas. Je vous l'ai dit souvent, Madame d'Artenat est bonne, mais elle n'est pas sensible. Cette différence ne se remarque guère dans les circonstances habituelles de la vie. Mais quand il faut traiter des sujets qui blessent de partout, l'on est étonné de la douleur que font éprouver ces expressions claires et positives qui ne changent rien à la situation, mais tourmentent l'imagination presque autant qu'une nouvelle peine. Madame d'Artenat me citait sans cesse ce qu'elle avait fait pour ramener l'opinion sur sa nièce. Elle croyait m'encourager par l'exemple des services qu'elle lui avait rendus, comme si cette comparaison pouvait se soutenir, comme si son premier soin n'aurait pas dû être de l'écarter. Madame de R souffrait d'une manière très aimable d'un rapprochement qu'elle trouvait tout à fait inconvenable. Chaque fois que Madame d'Artenat se servait d'un terme trop fort, elle l'interrompait pour adoucir par des modifications flatteuses ce que sa tante avait trop prononcé. Je lui ai vu plusieurs fois les larmes aux yeux en me regardant. Je savais beaucoup de gré à Madame de R de ses attentions délicates, mais je ne pouvais l'en remercier. Toute ma force était employée à écouter avec douceur les avis utiles de Madame d'Artenat. Je rougissais et je pâlissais tour à tour quand elle me répétait ce qu'on avait dit de moi du ton d'un récit ordinaire. On aurait pu croire qu'elle racontait une histoire arrivée depuis 50 ans à des personnes tout à fait étrangères à cette histoire. Cependant, comme je ne pouvais douter que le but de tous ces discours ne fût de me rendre service, qu'elle en avait un sincère désir et me le témoignait franchement, je m'imposais, quoi qu'il m'en coûtât, de l'entendre en silence et de la remercier du moins par un signe de tête lorsque la parole me manquait. Je sentais d'ailleurs que la hauteur de l'innocence n'aurait paru que de l'exaltation à Madame d'Artenat. Je retenais les expressions élevées et presque orgueilleuses qui m'auraient satisfaite. Et je m'interdisais cette langue sacrée des âmes fières qu'il ne faut pas prodiguer à qui n'est pas digne de la comprendre. Le résultat de cette conversation fut qu'il fallait retourner dans le monde. Et comme Madame de Sainte-Albe doit donner dans quelques semaines un grand concert où la Société de Paris sera réunie, Madame d'Artenat, qui est sa parente, veut m'y faire inviter et m'y conduire. Elle croit que, d'ici là, mes amis auront eu le temps de me justifier et de réparer entièrement le tort que m'a fait M. de Fierville. Il me sera pénible de me présenter ainsi à toute l'armée de l'opinion. Mais, Léon, se le désire, je le ferai. Qui vous aurait dit cependant, ma chère Élise, que cette Delphine dont on enviait la situation, qu'on attendait dans les nombreuses assemblées, j'ose le dire avec amertume, comme une partie de la fête, qui vous aurait dit que cette même Delphine, sans un tort réel, par une suite de sentiments bons, du moins excusables, se verrait réduite à implorer, pour oser reparaître, l'appui d'une femme d'un caractère et d'un esprit si inférieur, et craindrait comme une puissance ennemie cette même société, ces mêmes hommes, qui semblaient ne pas trouver assez d'expression pour l'enivrer de leurs éloges. Ah, quel autre que Léonce pourrait me faire subir le tourment que j'éprouve en courtisant l'opinion. J'en souffre, à chaque heure, à chaque minute. Et cette résolution, une fois prise, exige mille résolutions de détail qui sont toutes également pénibles. Je sais cependant que, si rien de nouveau ne traverse ma vie, je me tirerai de ma situation actuelle. Je me replacerai dans la société au rang que j'y occupais, et que Léonce regrette si vivement. Mais pourrais-je jamais oublier que pour me relever, il a presque fallu supporter des humiliations? Mon caractère reprendra-t-il son indépendance naturelle? Et retrouverai-je jamais le plaisir et la sécurité que j'éprouvais au milieu du monde avant qu'il ne m'eût fait connaître tout à la fois son injustice et son pouvoir? Combien vous avez mieux fait, ma chère Élise, de vous résigner noblement à la défaveur de la société. Il a pu vous en coûter, mais vos ennemis ne l'ont pas su, et vous n'avez pas fait un pas pour les rappeler. Je me replacerai peut-être extérieurement dans la même situation. Mais ce qui me la rendait agréable, mes propres impressions, sont changées. Il me faut du calcul et presque de l'art pour captiver de nouveau les suffrages. Ce calcul, cet art, m'ont fait découvrir le secret de tout. Les illusions les plus douces se sont dissipées. J'ai analysé l'amitié comme la haine, et pour reconquérir la société, je suis forcée de l'étudier sous un point de vue qui lui ôte sans retour le charme qu'elle avait pour moi. Mais Léonce, à ce nom, les sentiments les plus vrais me raniment. Oubliez, ma chère Élise, les plaintes auxquelles je me suis livrée sur ce qu'il exige de moi. Il m'en témoigne chaque jour une reconnaissance si tendre qu'elle doit effacer toutes mes peines.